Notre deuxième séquence concernant la prière se fera avec cette parabole de Jésus. Parabole, c'est le terme employé par Jésus lui-même selon l'évangéliste Luc. Si vous regardez le texte, dans la partie grecque, l'avant-dernier mot du verset 9, parabolène, c'est bien le terme parabole. Donc Jésus va s'adresser à ceux qui sont autour de lui avec une parabole, et le fait qu'il parle en parabole nous indique déjà quelque chose sur la manière d'interpréter le texte. On n'interprète pas un texte de la même manière si c'est un article du journal L'Équipe, si c'est une recette de cuisine, si c'est une parabole ou si c'est un texte du Code civil. Oui, bien sûr.
Quelle est la différence entre parabole, allégorie et métaphore ?
Alors, la différence entre l'allégorie et la métaphore, déjà, c'est que l'allégorie va représenter des choses par d'autres choses. Par exemple, on va représenter la République par Marianne. On va représenter la liberté par cette mise en scène de la croix. On va représenter la justice par un plateau. Ça, ce sont des allégories. Donc, on représente des choses par d'autres choses. La métaphore s'intéresse plutôt au mouvement et aux dynamiques. C'est-à-dire que ce sont les verbes qui vont être particulièrement utiles. Pour dire les choses peut-être sous forme mathématique, on va comparer des rapports. C'est-à-dire que si on prend les paraboles du royaume, je pense que ce sont des métaphores, parce que quand on dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, ça serait une allégorie. Mais le texte continue. Et en fait, ce n'est pas le grain de moutarde qui est important, c'est que le grain de moutarde soit planté, qu'il grandisse, qu'il devienne la plus grande des plantes potagères, et que les oiseaux du ciel puissent y faire leur nid. Autrement dit, c'est le mouvement qui est intéressant du point de vue du rédacteur. Et donc, la métaphore, c'est une image qui est plutôt sur une analogie de rapport. C'est-à-dire que la dynamique du grain de moutarde est à la vie potagère, ce qu'une parole peut-être à la vie spirituelle, par exemple, hein, en termes de rendement. De même que le semeur qui sème, on peut en faire une lecture allégorique, c'est ce qui est fait d'ailleurs dans les évangiles à un moment donné, en disant, ben voilà, tel type de terrain, ça correspond à tel type de croyant. Mais, dans la première partie, c'est une métaphore parce que le semeur sort pour semer, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il sème. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu où il sème qui est l'objet de la parabole, c'est la manière qu'il a, et c'est une manière très libérale. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'études de marché, il sème à tout vent. Et advienne que pourra, parce qu'il est détenteur d'une source infinie. Et cette infinité n'a pas besoin d'être recluse dans un terrain tout particulier. Quant à la parabole, je dirais que la parabole, c'est plutôt une pédagogie du discours. La parabole, c'est ce qu'on utilise face à un interlocuteur qui est assez hermétique. La parabole cherche à convaincre l'autre, et donc elle va faire le tour du propriétaire pour trouver la petite porte qui est moins bien fermée que les autres, voire qui serait ouverte. Donc, vous voyez, baleine, c'est jeter, para, c'est le long d'eux, et du coup, c'est une parole qu'on jette le long des barrières fortifiées pour essayer de trouver un lieu pour entrer. Et donc, les paraboles sont destinées à être entendues de son interlocuteur et à le bouger un peu, à le bousculer un peu, à ce que ses certitudes puisse être un peu ébranlé pour qu'il puisse faire place à un autre enseignement que ce qu'il tenait pour définitivement acquis. Exemple typique, lorsque David a commis l'adultère avec Bethsabée et qu'il a fait tuer Uri, son mari, pour le prophète Nathan va essayer de lui faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Et pour cela, il va utiliser une parabole avec l'histoire d'un tout petit propriétaire qui avait une petite brebis, et le grand propriétaire qui avait un grand troupeau à côté vient lui piquer sa petite brebis. Et là, David est scandalisé, il dit « Mais apporte-moi tout de suite cet homme, que je le punisse. » Et Nathan lui répond « Cet homme, c'est toi. » Donc, la parabole, elle déplace. Comme c'est une histoire, comme les lettres persanes, qui parlent de quelque chose très loin, on peut s'y intéresser sans être trop inquiété. On se dit « Ça ne nous concerne pas. » Une fois qu'on est d'accord avec ce qui a été raconté, eh bien, on découvre qu'en fait, ce qui a été raconté, ça nous concernait. Mais ce déplacement permet de pouvoir adhérer au message sans avoir le sentiment de se dédire. Vous voyez, quand on, Stéphane pourrait nous parler de ça, quand on a des freins par rapport au changement, quand il faut changer un peu de paradigme ou autre, personne n'aime changer. Eh bien, c'est le genre de stratégie qu'on met en place pour faciliter le changement et faire en sorte que des personnes puissent adhérer à une autre manière de voir les choses sans avoir l'impression de se trahir. On refuse toujours les autres visions en première intention. Voilà. Donc, Jésus utilise une parabole, et donc c'est important parce que ça signifie qu'il ne faudrait pas forcément se fixer sur le fait que c'est un pharisien contre un péager. C'est-à-dire qu'on va parler d'un pharisien et d'un péager. Il ne faut pas forcément y lire chez Jésus une sorte d'antisémitisme latent, au prétexte qu'il fustigerait le pharisien, qui est représentant du judaïsme qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. Et l'évangile de Luc, en disant que c'est une parabole, dit « Pensons cette histoire de manière universelle et pas simplement liée à un contexte particulier » qui ferait que tous les pharisiens sont comme ce pharisien-là. Mais on va utiliser quand même les caractéristiques du pharisien pour comprendre quel est l'enjeu du problème. Voilà. Ces premières indications dites, je propose qu'on rentre dans la lecture du texte dans sa version française. Là, je vous ai mis une traduction Louis II. Si quelqu'un pouvait lire des versets 9 à 14, comme ça on est tous au même niveau de découverte du texte, et après, on essaie de le faire parler. Voilà, qui veut le lire ?
Je peux essayer.
C'est quoi ?
C'est tout le texte.
Oui, oui, de 9 à 14.
Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Merci beaucoup. Bien. Donc, si j'ai retenu ce texte, c'est parce qu'il présente deux façons de prier, finalement, et que Jésus apporte un commentaire sur ces différentes façons de prier, donc ça nous est utile pour notre propre construction, pour notre propre spiritualité. Et puis parce que ça aborde un des thèmes de la prière, à savoir l'humilité. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention ensuite. Alors, avant que la parabole commence, il y a ce verset 9 qui indique à qui est destinée cette histoire. Alors, c'est pour qui ?
Une personne qui se persuade qu'elle est juste.
Oui. Donc, ça, c'est.
Elles ne font qu'un cas des autres, c'est surtout ça.
Oui. Donc, il y a d'un côté celles qui, pour elles-mêmes, sont justes, si je suis au plus près du texte grec. De leur point de vue, elles sont justes. Voilà. Et effectivement, elles considèrent les autres comme rien, comme de la buée, comme Abel. Hein.
Et péché d'orgueil.
Alors, voilà, là vous commencez à qualifier les choses, orgueil, et du coup, vous comprenez que l'inverse va être l'humilité. Vous voyez, le terme « se persuadant qu'elles étaient justes » est un petit peu inutile. Elles considèrent qu'elles sont justes, mais elles ne se persuadent pas. C'est-à-dire qu'elles sont pleines d'elles-mêmes, finalement. Et c'est ça que nous allons voir avec le pharisien, c'est qu'il est comme imbu de sa personne, ou dans une attitude narcissique. Le texte va le dire en grec, à sa manière. Si on le disait autrement, avec des termes plus contemporains, on pourrait parler de ces personnes qui se considèrent comme auto-fondées. Ou on pourrait utiliser l'image anglo-saxonne du self-made man, des personnes qui considèrent qu'elles se sont construites à la seule force du poignet. Et ce sont donc des personnes qui n'ont pas besoin d'autrui pour se qualifier. Elles s'auto-examinent, s'auto-évaluent et s'auto-justifient. Bah, au moins comme ça, on n'est pas déçu. Hein. Mais on va voir quelle va être la nature du problème du coup. Bien. Alors, comme c'est une petite histoire, une parabole, quand vous voulez attaquer une parabole ou une histoire dans la Bible, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme souvent on fait pour les contes, c'est de vous demander quelle est la différence entre la situation de départ et la situation d'arrivée pour voir ce que le texte produit. Et ce que l'on peut faire, c'est ici comparer le verset 9 au verset 14, par exemple. Donc dans le verset 14, on entend que c'est pour les personnes qui s'auto-justifient, au verset 9 et au verset 14. Je vous le dis, celui-ci, donc le péager ou le publicain, descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, c'est une sorte de réponse au verset 9, mais avec un léger décalage. C'est-à-dire que le verset 14 ne va pas prendre à contre-pied les personnes qui considèrent qu'elles sont justes. Il va faire un petit décalage en remettant chacun face à ses responsabilités, aussi bien les personnes qui se considèrent comme justes que les personnes qui se considèrent comme injustes. En décalant un petit peu la problématique sur s'élever et s'abaisser. Et s'élever et s'abaisser, en fait, ça va être expliqué par notre texte, parce qu'on le voit, on l'entend pas forcément, mais en fait, il y a un jeu sur le en haut et le en bas. Ils montent au temple, tous les deux montent au temple, et il y en a un qui va ensuite descendre dans sa maison, au verset 14. Donc, il y a cette idée de montée et de descente. Avec, en plus, pour le péager, le fait de descendre justifié. Et donc, ce que nous avons ici, c'est un texte qui va jouer sur la spatialité. Et c'est ça que je vais essayer de vous mettre en évidence, spatialité et en même temps dignité, par un jeu de contraste entre nos deux héros. Alors, le pharisien et le péager, peut-être que je vous dis un mot sur qui sont ces braves personnes. Ça va nous aider à mieux comprendre. Donc, à l'époque de Jésus, il y a plusieurs groupes juifs avec des identités différentes et des fonctions différentes. Les plus connus sont les pharisiens. Les pharisiens, on pourrait dire que ce sont les ancêtres du judaïsme que l'on connaît aujourd'hui. C'est eux qui vont produire le Talmud, par exemple. On les appelle les docteurs de la loi aussi. Ce sont ceux qui vont interpréter la Torah, donc les cinq premiers livres de la Bible, qui ont une valeur particulière, pour pouvoir organiser le moindre aspect de la vie quotidienne, et donc pour organiser la vie juive. Étant entendu que la vie juive, ce n'est pas simplement la vie à la synagogue, mais c'est toute la vie quotidienne. C'est comme être chrétien, ce n'est pas simplement le dimanche matin ou le samedi matin pour le judaïsme. Et les pharisiens vont être à côté d'autres courants, par exemple les sadducéens. Les sadducéens sont les personnes qui s'occupent du temple et qui sont finalement plutôt recrutés dans les familles lévites, hein, puisque ce sont les lévites qui ont charge de prêtrise. Puis il y a un autre groupe dont on entend parler aussi, ce sont les zélotes, ou les zélateurs de la foi. Ce sont ceux qui vont considérer que l'occupation romaine est non seulement insupportable, mais qu'elle constitue une sorte de blasphème, et qu'il faut donc intervenir de manière active, voire armée, pour purifier la terre d'Israël en chassant l'occupant romain. Ce qui conduira d'ailleurs à ce qu'on appelle la révolte des Zélotes, hein, dans les années 70, avec la fameuse chute de Masada, qui conduira ensuite au sac de Jérusalem et à Rome, sur l'arc de Titus, où vous voyez que les outils cultuels, notamment la menorah, sont transférés depuis Jérusalem jusqu'à Rome, ce qui montre une façon de dire que le dieu des Juifs rentre dans le panthéon romain et que le judaïsme est donc soumis pour de bon aux Romains. Et puis, des fois, dans la Bible, on n'en parle pas, mais ou de façon allusive, vous savez qu'à cette époque, il y avait aussi ce qu'on appelle les Esséniens. Les Esséniens sont des Juifs particulièrement pieux qui, pour éviter justement la souillure de Jérusalem, vivaient de façon monacale et avaient développé une théologie plutôt dualiste, où il s'agissait de combattre les forces du mal, que l'on métaphorisait par les forces des ténèbres, eux qui étaient fils de la lumière. Et on imagine qu'à Qumran, nous avons les vestiges d'une communauté essénienne. Je reviens juste sur pharisien pour dire que c'est un terme qui signifie séparé. Séparé au sens où les pharisiens vont établir beaucoup de distinctions, par exemple entre le pur et l'impur, entre les circoncis et les incirconcis, entre le peuple, Ham, et les nations, Goïm, et que tout va consister sur cette distinction entre le sacré et le profane. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir beaucoup de disputes entre Jésus et les pharisiens sur les questions de pureté rituelle, sur la question du pur et de l'impur, savoir aussi qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Les pharisiens, à travers leur code, ont finalement érigé une sorte de frontière symbolique entre ceux du dedans et ceux du dehors. Et donc on est sur une conception assez tribale que l'on va retrouver dans le propos de notre pharisien ici. Alors, et quant au publicain ou au péager, c'est l'équivalent du trésorier payeur général, celui qui collecte les impôts. Le trésorier payeur général, c'est Zachée, en fait, c'est le chef des péagers. Là, cet homme n'est pas le chef. Et alors, ils avaient mauvaise réputation parce que du coup, ils étaient au service de Rome dans le prélèvement de l'impôt. Et autre raison pour laquelle ils avaient mauvaise réputation, c'est que finalement, eux-mêmes fixaient le montant de l'impôt, ce qui leur permettait de récupérer une marge. Ce qui s'explique par... mais c'est un peu toujours vrai, c'est-à-dire que le trésorier payeur général est sur ses fonds propres. S'il y a une erreur, c'est lui qui est censé rembourser. Hein. Du coup, prévoir des marges, c'est prévoir aussi les pertes et de pouvoir les couvrir. Donc, nos deux personnages vont avoir des choses en commun et des choses différentes, et c'est ça qui va nous permettre déjà de distinguer avec Jésus ce qui les démarque. Donc, en commun, il y a le lieu, donc c'est le temple, ils vont tous les deux au temple. C'est le temps, puisqu'ils sont tous les deux au même moment au temple. Et puis, je dirais, c'est l'intention. Et c'est important de constater qu'ils ont une intention commune, parce que souvent on dit « Oh, ce qui fait la différence, c'est l'intention. » Peu importe les gestes, ce qui compte, c'est l'intention. Mais en fait, ils ont une intention commune qui se manifeste dans le texte très concrètement par une adresse commune. L'intention, c'est que tous les deux s'adressent à Dieu, au Théos. Tous les deux vont invoquer Dieu. Et donc, l'intention, c'est Dieu. Donc, il serait faux de dire que l'un a une intention négative et l'autre une intention positive. L'intention est la même. Et alors, vous voyez, ce qu'ils ont en commun, en fait, ce sont des choses visibles par tous. Ils sont dans le même lieu, dans le même temps, donc là, on les voit facilement. Et l'intention, c'est finalement ce qui est audible de leur prière. Et alors, en revanche, les différences, eh bien, ça va être dans le traitement de ces deux personnalités. Déjà, le contenu va être différent. Le contenu de la prière du pharisien va être plus développé que le contenu de la prière du péager. Et on pourrait presque dire que la prière du péager, c'est un lancer de pierre, quoi. C'est lapidaire. Alors que il y a plus d'emphase dans la prière du pharisien. Mais, et c'est ça qui est une opposition, il y a aussi une différence dans la présentation des deux. C'est-à-dire que la présentation du pharisien, pour le coup, est très lapidaire. Le pharisien, debout. Voilà, prie ainsi en lui-même. Alors que le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant... On développe un peu plus l'attitude du péager, du publicain, manière de dire, c'est cette personne-là qu'il faut regarder plus attentivement, c'est cette personne-là qui est plus intéressante. Et vous voyez, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que, une fois de plus, ce que le pharisien donne à voir pourrait nous donner l'impression que c'est une personne importante, et l'évangile rectifie en nous disant « Non, la personne importante, c'est celle dont je donne le plus de détails, en dépit du fait qu'elle se présente de manière beaucoup plus modeste. » Et puis, la grande différence, c'est la posture. Certes, tous les deux sont debout, ce qui est l'usage en fait. La prière se fait debout. La prière, la Amida, la prière du matin notamment, elle se fait debout. Si vous habitez à Paris, vous devez vous tourner vers Jérusalem. Si vous êtes à Jérusalem, vous devez vous tourner vers le temple. Et vous avez certainement beaucoup d'images de ces prières debout. Des fois, ça deline un peu, ça... Il y a aussi quelques courbures. Et la posture est tout à fait différente, et on le voit dans le texte, au verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Et ce « en lui-même » est intéressant, parce que en grec, le pharisien donc, se tient debout, « pros eauton », vers lui-même. Ça change un peu, en fait. Procéoton, vers lui-même. Autrement dit, il est en symbiose, il est en fusion avec lui-même. Vous voyez, ça reprend l'idée qu'on avait au verset 9, se persuadant qu'elles étaient justes. Eh bien, là, il y a une vraie autosuffisance. Il y a une sorte de saturation de lui-même. Et c'est là que je disais, le texte nous parle de narcissisme. Parce qu'en fait, ce que regarde le pharisien, c'est lui. Puisqu'il est dirigé vers lui. Donc, c'est une sorte de repli sur soi. Oui, égocentré, où il est comme Narcisse qui mire son reflet dans le cours d'eau.
Puis il juge les autres.
Et après, il va juger les autres.
Oui, parce qu'il parle du publicain en disant... en même temps qu'il prie, il voit le publicain et il dit... Je te rends grâce au Dieu du fait que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes à l'extérieur, ou même comme ce publicain. Donc il n'est pas totalement centré sur lui-même. Il fait une comparaison entre lui et le publicain.
Oui, effectivement, il se compare. Il l'a certainement vu en arrivant avec lui au temple. Alors effectivement, il y a une adresse à Dieu, mais en fait, le Dieu qu'il prie, c'est lui. C'est ça que dit le texte biblique. Et c'est pas sans intérêt, parce que ça nous permet de prendre conscience que si l'attitude du pharisien n'est pas celle que Jésus nous recommande d'avoir, ça signifie qu'une prière qui s'en tiendrait à nos intuitions, à nos élans, à nos désirs, à notre vision du monde, est une prière qui n'est pas très évangélique en fait. Et le fait qu'il soit comme cela en fusion laisse évidemment peu de place à l'altérité. Alors que notre publicain, au verset 13, se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel. C'est dire que pour lui, au contraire, il y a de l'altérité. Hein ? Le fait de se tenir à distance... c'est de dire qu'il y a un espace et donc qu'il y a autre chose que moi-même. On va revenir après sur l'attitude du PAG. Mais on va commencer par voir comment le discours du pharisien dit quelque chose sur ce que pourrait ne pas être la prière et la vie spirituelle. Bon, donc, on a vu le caractère orgueilleux. Maintenant, on va effectivement s'intéresser à ce qu'il dit. « Ô Dieu, je te rends grâce de ne pas être une femme, de n'être pas catholique, etc. Ouais. » Il y a des prières qui existent comme ça dans le rituel. Je te rends grâce de ne pas être une femme. Dans un judaïsme orthodoxe, ça peut exister. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, on va avoir une prière qui se fait en comparaison. Mais cette prière, en fait, elle est bien plus qu'un dialogue avec... avec Dieu, disons, elle est extrêmement révélatrice de l'attitude intérieure du pharisien. Ce que je veux dire, c'est que elle est révélatrice de ce positionnement qui se construit par des séparations entre pur et impur. Finalement, vous voyez, quand je vous disais les pharisiens sont ceux qui se considèrent comme séparés, eh bien, ça transpire à ce moment-là, en disant qu'il rend grâce de n'être pas comme toutes ces catégories-là, ça signifie qu'il va construire son identité sur le dos de toutes ces catégories-là. Autrement dit, il est quelqu'un parce qu'il n'est pas tout cela.
Il est complètement négatif.
Ouais, c'est une identité négative. Et alors ça, c'est extrêmement problématique, et j'aimerais vous montrer pourquoi. En quoi consiste finalement la prière de ce pharisien ? Elle consiste à déshumaniser une personne ou un groupe. C'est-à-dire qu'on en fait un citoyen de seconde catégorie, on en fait un sous-homme, voire un quasi-animal. On en fait un être abject, abominable, quelqu'un qu'il faudrait guérir, quelqu'un qui n'est pas pleinement humain. Et donc, une fois qu'on a dégradé son humanité, il devient possible de le haïr facilement et d'en faire son ennemi. Et à partir de là, on peut le tuer symboliquement, puisqu'il le mérite finalement. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle, quand c'est porté à grande échelle, le principe du bouc émissaire. Qu'est-ce qui fait ma légitimité ? Eh bien, c'est que je suis l'adversaire de ce qui est inhumain. Et on se construit de façon négative en existant par opposition A. Ça existe dans beaucoup de partis politiques, hein. Les partis politiques qui sont des partis d'opposition systématique, ça donne une consistance, une existence. En religion, ça peut être possible. On peut exister en étant uniquement dans une logique de contestation. Le Piaget, lui, va nous montrer qu'il est au contraire dans une logique d'adhésion à Dieu et que ce qui fait le caractère propre de la vie spirituelle, c'est pas le rejet de ceci ou de cela, c'est l'adhésion à Dieu et à ce que Dieu symbolise comme possibilité d'existence. Et donc on déshumanise, on peut haïr et tuer, et puis le troisième point, pour être vraiment très opérationnel, on met Dieu de son côté, c'est-à-dire qu'on se justifie en disant « c'est Dieu qui veut ça ». Parce que si on dit « je rends grâce à Dieu de ne pas être comme tous ces gens-là », ben, c'est-à-dire que Dieu y est pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre pour que ce soit vrai.
C'est à cause de Dieu aussi.
Oui, ou grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que je ne suis pas un péager. Bon, ben, si maintenant vous avez des regrets, vous direz « c'est à cause de Dieu ». Mais vous voyez, quand vous rendez grâce à Dieu pour quelque chose, ça signifie qu'il est, disons, co-responsable ou complice. Je me souviens d'un entretien que j'avais lu dans un livre qui reprenait les entretiens pastoraux, qui s'appelait « Entretien en tête-à-tête ». Donc c'était des verbatim. Et c'était un entretien qui se tenait dans une chambre d'hôpital et l'aumônier racontait sa visite en disant tous les efforts qu'il avait déployés pour que la personne malade cesse de penser que c'était une punition de Dieu. Et grosso modo, l'aumônier disait « Eh bien voilà, je m'efforçais de dire que Dieu n'était pas derrière tous les actes de la vie, etc. et que ce n'est donc pas lui qui avait infligé cette maladie à cette personne. » Et puis à un moment donné, l'aumônier continue son récit en disant « Nous avons pu avoir cette discussion très tranquillement et j'ai rendu grâce à Dieu de ne pas être interrompu par une infirmière qui rentrerait à ce moment-là. » Et d'un seul coup, ça prenait le contre-pied de tout ce qui venait d'être dit. Sous-entendu, c'est Dieu qui s'était arrangé pour que personne n'entre dans la chambre. Vous voyez ? Donc là, en racontant cette histoire, je montre quelles sont nos contradictions. On a tous nos paradoxes, nos contradictions. Mais c'est aussi pour dire que quand on rend grâce à Dieu pour quelque chose, c'est qu'on le rend co-responsable ou complice de cette chose. Vous ne remerciez pas quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous pouvez lui exprimer votre joie. Vous pouvez exprimer votre joie à Dieu de tel bonheur. Ou vous pouvez exprimer votre malheur à Dieu de tel événement triste. Si vous rendez grâce à, comme ce que fait Job à la mort de ses enfants, Dieu a donné, Dieu a ôté, béni soit le nom de Dieu, ça signifie que c'est bien lui qui décide de ces événements-là. Par rapport au texte grec, je vous rends juste attentif à une petite chose amusante, les ravisseurs. Les ravisseurs en grec, c'est les arpagès. C'est ce qui donne arpagon, hein, chez Molière. Arpagon. Voilà. Sinon, pour le reste, voilà. Par rapport à cette identité négative, hein, le terme que vous avez employé est le bon, je pense. Voilà le problème que ça pose. Je vous le dis dans une observation plus contemporaine. C'est que si on est quelqu'un, par exemple, sur le plan religieux, uniquement par rapport à ce que les autres sont, alors je repère deux lieux où ça pose problème, par exemple. C'est l'islam. Parce que ça signifie qu'un regard appuyé sur l'islam va renvoyer beaucoup de personnes à un déficit de signes ostensibles de religion. Je veux dire que, vous voyez, par exemple, l'histoire du voile, mais aussi l'histoire du jeûne lors du ramadan, ou des cinq prières par jour. Vous voyez, toutes ces choses visibles renvoient au fait que certains pourraient ne pas avoir autant de choses visibles à opposer. Et du coup, l'islam pourrait apparaître comme terrorisant pour quelqu'un qui n'est pas très au clair sur ses convictions et qui finalement se dit qu'il n'a pas la même consistance que celui qui se tient en face de soi. Et du coup, l'autre pourrait être comme un terroriste en puissance, tout simplement parce qu'il me terrorise dans le fait que je suis quasiment comme rien. Vous voyez, le pharisien, il considère les autres comme rien. Et ça peut avoir un effet terrible, c'est que si on est considéré comme rien, alors du coup, on est nécessairement pris en défaut, on va avoir besoin de se défendre. Et ça peut être l'origine d'une violence. Et puis, autre chose, avec un catholicisme bien ancré dans ses convictions, vous voyez, assez monolithique, ça pourrait nous conduire à considérer le catholicisme comme intégriste parce que il me renvoie à mon manque d'intégralité ou mon manque d'intégrité. C'est-à-dire que si je suis un peu faible au niveau des convictions, le catholicisme peut me renvoyer à cette faiblesse-là et du coup, je peux leur renvoyer mon symptôme finalement. Hein, ils mettent en évidence ma faible intégrité et du coup je les traite d'intégristes. Donc il y a comme cela des effets miroirs qui peuvent être préjudiciables. Et après on reprendra sur la question de comment on gère cela. Je finis avec le publicain. Par rapport à ce qu'il dit, ça nous donne des informations sur la spiritualité de l'époque. Je jeûne deux fois la semaine. Alors, le pharisien. Donc, jeûner deux fois la semaine au verset 12, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, c'était une pénitence suite à la profanation du nom de Dieu et de l'honneur de la Torah sous Antiochus IV Épiphane. Et les chrétiens ont ensuite décalé ça au mercredi et au vendredi, pour ceux qui faisaient un double jeûne. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bon, là, c'est la pratique connue dans la Torah. Donc maintenant, notre publicain. Donc il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Le ciel est l'allégorie de Dieu, notre Père qui est aux cieux ou au ciel. Dans la langue grecque, là, c'est Ouranos, mais l'image du ciel, elle nous vient du Premier Testament, donc de la langue hébraïque. Et je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. Je vous rappelle juste un petit peu l'étymologie possible, parce que ça donne une indication sur le caractère métaphorique de cela. En hébreu, donc, les cieux, c'est Shamaïm. Et la racine, c'est Sham. Et ça, c'est une forme duelle. Sham, ça veut dire là, avec l'accent grave, donc ici. Et comme c'est une forme duelle, ça veut dire qu'il y a deux là. C'est là et là. Pas forcément là et là. Et ça peut être dans le caractère horizontal. En tous les cas, ça dit qu'il y a un au-delà. Les cieux, ça représente ce qui n'est pas circonscrit au lieu où je me tiens. Il y a de l'extériorité. Il y a du plus que là où je me tiens. C'est pour ça que des fois, je parle de transcendance horizontale. C'est-à-dire que les cieux, ça renvoie à plus loin. Pas forcément en hauteur, ça peut être en longueur ou en largeur. Et du coup, les cieux, dans cette compréhension-là, c'est pas forcément au-dessus de moi, ça peut être face à moi, et donc ça peut être dans celui qui se tient là, face à moi. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le PAG n'ose même pas lever les cieux, c'est-à-dire qu'il est comme ces croyants qui regardent le bout de leurs chaussures. C'est toujours difficile à interpréter. Est-ce que c'est un excès d'humilité, une fausse modestie, ou est-ce que c'est de la honte, ou est-ce que c'est de la pudeur? Tout cela est assez difficile à dire de manière universelle. En tous les cas, dans le cas de notre PAG, on voit qu'il met toute une succession de distances. Il se tient à distance du lieu qui serait le plus proche symboliquement de l'endroit où se tient le divin, et puis il n'ose pas lever les yeux au ciel, donc symboliquement il n'ose pas regarder vers ce qui pourrait tenir lieu de divinité.
Un peu l'altérité finalement, quand on parle du divin et que vous parliez de transcendance horizontale, c'est le fait qu'il est le grand tout en fait.
Oui. Donc, lui est bien conscient qu'il y a de l'autre, et cet autre, il le considère comme infiniment supérieur à lui-même, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul. Et il se frappait la poitrine, ce qui est une marque de contrition. Il bat sa coulpe, en quelque sorte. Et là-dessus, il va avoir un discours radicalement différent du pharisien, puisqu'au lieu d'évoquer son sentiment de supériorité, il va avoir tendance à exprimer son sentiment d'extrême infériorité, ou de totale, ou de radicale infériorité. Il le dit de deux manières. Ô Dieu, sois apaisé. Donc, c'est soit réconcilié, en fait. Ilasthémie. C'est la conviction qu'il y a une distance entre Dieu et lui. Qui ne sont pas en parfaite harmonie. Vous voyez, le pharisien, lui, avait le sentiment d'être en parfaite harmonie avec lui-même, mais le PAG a conscience de ne pas être en parfaite harmonie avec Dieu. Et pour bien traduire cela, il dit « Moi qui suis un pécheur, un amartolo », et ça nous donne un peu une indication sur ce qu'est le péché, une fois de plus. C'est-à-dire que ici, nous voyons que le péché, ce n'est pas la question d'une faute morale ou d'une transgression par rapport à une loi, par rapport à des règlements. Le péché ici désigne la distance qu'il y a entre Dieu et moi, on pourrait dire entre ce que Dieu me propose d'être et ce que je suis effectivement. On pourrait dire que le péché ici traduit la conscience que l'homme a de ne pas être au summum de sa vie ou de son être ou de son identité, qu'il y a encore un chemin à parcourir. On pourrait dire que quand le PAG reconnaît sa situation de pécheur, il dit en creux son désir de mieux être. Mieux être. Pas mieux faire, mieux être. Alors que pour le pharisien, voilà, tout est accompli. Il est au top. On ne peut pas mieux faire.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que la condition humaine, dans son essence même, est pécheresse? C'est-à-dire, c'est pas une. Contrairement aux pharisiens où il décrit finalement des actions qui sont mauvaises, là on a l'impression que le publicain, dans son essence même, se dit pécheur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui. En tous les cas, dans son état, il peut y avoir une différence entre l'essence et l'état. Par exemple, les textes bibliques, celui de la Genèse, hein, quand on parle d'Adam et Ève, puisque on pourrait identifier cet épisode comme le récit du péché originel. Ce texte présente Adam, Ève et le divin dans un rapport juste, ce qui laisse entendre qu'il n'y a pas un péché originel. Il peut y avoir, alors si on veut parler de péché au moment de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un épisode qui intervient a posteriori, un étape premier qui dit l'essence. Donc par essence, on pourrait dire l'homme n'est pas pécheur, mais il y a des états où il l'est, où il y a une distance entre lui et le Créateur, par exemple.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Mmh. En fait, il y a cette impurité, cette distance qui... je pense que le publicain fait référence à ça, c'est-à-dire que moi qui suis un pécheur par essence, enfin, je ne suis pas tellement dans la distinction entre essence et état. Mmh. Donc là, il décrit la condition humaine, le publicain, tout simplement. Et donc, ça a une portée beaucoup plus universelle que ce que dit le pharisien.
Alors, disons que on peut s'y reconnaître plus facilement. Mmh. Est-ce qu'il est en train de dire la condition universelle de l'homme? Ça reste une parabole. Ce qu'il y a, c'est que c'est une parabole qui se construit par jeu de contraste. Mmh. Entre une personne qui estime être arrivé au bout de son processus d'humanisation, le pharisien, et un autre qui considère qu'il est toujours en chemin vers son humanisation, le péager. Et je manie le mot péché avec prudence parce que on met tous des sens un peu différents sur le mot péché. Donc je mets ce terme de côté maintenant, mais ce qui semble intéresser Jésus dans l'attitude du PAG, c'est qu'il reconnaît que son existence n'est pas encore portée à son plein accomplissement.
Disons que c'est existence plutôt qu'essence.
Voilà. Et que son existence a encore besoin de l'aide divine pour atteindre son apogée, par exemple. Alors, on approche de quasiment de la résolution du problème. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc, celui-ci, c'est bien le dernier dont il a été question, donc c'est bien le péager. Il n'y a pas d'ambiguïté sur celui qui reçoit l'approbation de Jésus. Et on a cette phrase qui ressemble un peu à ceux qui, aux premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Là, on a « quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé » parce que on a vu que les deux montaient au temple et puis l'un des deux, enfin les deux en fait vont redescendre dans leur maison, mais on voit qu'il y a un jeu de montée et de descente. Et il y a aussi un autre jeu de montée et de descente, c'est par rapport à sa dignité. Il y en a un qui va monter lui-même sa dignité, l'autre qui va la descendre, et on se rend compte que le résultat sera exactement inverse. C'est-à-dire que celui qui a descendu son humanité va la voir remonter, et l'autre, donc, si on s'en tient au verset 14, va subir le phénomène inverse. Comment peut-on comprendre cela ? Je dirais de la même chose de deux manières différentes. Tout d'abord, en prenant une situation un peu imaginaire dans notre vie quotidienne, imaginons un homme bien établi, pas de problème manifeste, des gens comme vous et moi, quoi. Et on rencontre un délinquant ou un marginal. Bon, la présence de ce délinquant, de ce marginal, va nous mettre en insécurité. Et pour pallier à ce sentiment d'insécurité, on va en quelque sorte se justifier pour se rassurer. C'est-à-dire que on va avoir besoin de se revaloriser. Et on va le faire sur le dos de celui qui est en face de nous. Bien souvent, les personnes orgueilleuses ou narcissiques se confortent dans leur identité en se comparant par rapport à quelqu'un qui les flatte finalement dans leurs sentiments. C'est-à-dire quelqu'un qui manifestement vaut moins qu'eux. Et c'est une façon de dire que on est légitimé aux dépens des autres. C'est une façon de...
Les autres qui nous renvoient à eux,
c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'ils nous renvoient une bonne image de nous, puisqu'ils sont moins bien que nous. Et donc, l'autre devient un faire-valoir. C'est-à-dire qu'on l'instrumentalise. On en fait une sorte de marchepied. Et on peut avoir intérêt à laisser des gens dans de telles situations pour continuer à avoir des gens qui nous valorisent. Vous voyez, si on prend l'action sociale, on peut finalement régler ses problèmes personnels dans l'action sociale. Et tant qu'on a des pauvres à soigner, ben on voit qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que nous. Et faire en sorte qu'ils ne s'en sortent pas, c'est une façon de continuer à avoir des gens qui vont nous renvoyer une bonne image de nous. Parce que non seulement on est en meilleure santé qu'eux, on est plus heureux qu'eux, mais en plus on a du pouvoir sur eux, puisqu'ils dépendent de nous. Bon. Notre pharisien, là, s'il n'avait pas le publicain, il ne serait peut-être pas avec la même superbe. Alors peut-être que ça lui ferait du bien, parce que du coup il devrait se penser de manière inconditionnelle. Et c'est ça, je crois, l'intérêt de la vie spirituelle, c'est pouvoir se penser de manière inconditionnelle. Et c'est ce que fait le péager. Le péager est face à l'absolu, face à Dieu. Et donc, il va recevoir une identité qui ne va pas dépendre des circonstances. C'est en ce sens qu'elle est inconditionnelle. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il restera celui qu'il est. C'est un peu le sens de la phrase de Paul. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les astres, ni les puissances, ni aucune autre créature, rien jamais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, notre identité demeure ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas conditionnée à des circonstances. Et alors, maintenant je redis la même chose autrement. Finalement, l'attitude du pharisien, c'est une attitude de protectionnisme. Les pharisiens mettent des frontières étanches entre eux et les autres pour se protéger des autres. Et cela a une conséquence vraiment néfaste, c'est qu'en se protégeant des autres, on se protège aussi de ce qu'ils sont et de leur richesse. C'est-à-dire qu'en se protégeant de ceux qu'on considère comme une menace, on se protège aussi de ce qu'ils peuvent être comme source d'enrichissement. Oui. Vous voyez, à la limite, si on allait au bout de la logique, si on voulait se protéger du monde entier, on s'enfermerait dans un caisson et on finirait asphyxié. Parce que tout élément étranger est un élément problématique, quoi. Bon. Et se suffire à soi-même, ça n'est pas possible. Mais une autre façon de voir les choses, peut-être, vous voyez, par rapport aux logiques économiques, etc., c'est que lorsqu'on est dans une attitude de protectionnisme, eh bien, en fait, on réduit notre capacité d'existence parce qu'on ne va plus profiter de ce que les autres produisent. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on voulait vraiment une économie de marché uniquement française, avec simplement du fait en France, du produit français, etc. Bon, déjà, ça serait difficile de savoir à partir de quand ça s'arrête, mais est-ce que, si on allait au bout de la logique, est-ce qu'on pourrait continuer à, je sais pas moi, à manger des nems, par exemple. Ça serait produit en France, mais la recette n'est pas française. Enfin, bon, vous voyez, bon, cette logique. Pousser au bout la logique de séparation du pharisien, qui est aussi une logique narcissique, c'est de se priver de ce que l'autre peut instiller dans mon histoire, de ce que l'autre peut injecter et qui peut permettre de renouveler mon histoire. Typiquement, on peut être heureux seul, mais l'autre a des chances d'intensifier mon bonheur et de me faire découvrir des bonheurs que jusque-là j'ignorais. Donc l'autre, c'est pas que l'enfer.
Je peux poser une question.
Oui. Alors là, il y a la fin de l'évangile de Marc qui dit que justement nous sommes équipés pour pouvoir consommer des venins sans en mourir. Et qu'on est, dans ce cas-là, il faut brandir des serpents d'airain. C'est-à-dire que si je décrypte un peu l'image de la fin de l'évangile de Marc au chapitre 16, c'est que, justement, nous avons les moyens de pouvoir identifier ce qui est un venin pour éviter de le consommer. Brandir les serpents, c'est en fait montrer différentes menaces possibles. Une fois qu'on identifie les menaces, eh bien, on les évite. Quand on nous a appris ce qu'est une amanite phalloïde, on arrête de les consommer chemin faisant. Ou alors, on a d'autres problèmes, mais ça, c'est... Pour redire cela maintenant de manière théologique, je dirais que cette attitude du PAG est une attitude de la kénose. Par opposition aux pharisiens, qui est une attitude de la totalité, de la plénitude. La kénose, c'est ce terme qui dit le fait de se vider, de ce qui nous encombre, pour pouvoir faire place à autre chose que nous-mêmes. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens, Jésus s'est vidé de lui-même. Il a pris la condition de serviteur, devenant semblable à nous. L'idée, c'est que si on fait de la place à autre chose que ce que nous sommes, dans ce cas-là, on a la possibilité d'accéder à un statut supérieur, ou vous voyez, d'être renforcé, d'être porté par une dynamique plus importante que ce que nous sommes capable seul. Autrement dit, une interaction est possible. Et la prière, en fait, elle a cette fonction-là. En français, il nous manque un verbe, ce serait le verbe humblifier, c'est-à-dire devenir humble. Devenir humble. On a humilié. Mais humilié, vous voyez, c'est un côté très péjoratif dans la langue française. On peut être humble pour des raisons très positives. Humble, ça se construit à partir de l'humus. Et l'humus, c'est la partie fertile de la terre. Ce n'est pas la glaise. Hein, c'est là où ça peut pousser. Et l'humanité, c'est de l'humus. Et donc, vous voyez, c'est cette capacité que l'homme a de pouvoir recevoir des choses de l'extérieur et de pouvoir les faire grandir, pouvoir les porter, les faire pousser et de porter du fruit même. Eh bien, le pharisien n'a pas de place pour planter quoi que ce soit en lui. Et c'est ce qui va faire la différence entre notre pharisien et notre péager. Et donc, pour finir sur la prière et l'humilité, je dirais que la prière, c'est ce qui nous permet de travailler sur la question de l'orgueil. Et si vous regardez les grands mystiques, ou des gens qui travaillent sur les exercices spirituels, je pense aussi bien à des gens comme du coup Ignace de Loyola ou Jean de la Croix, ils ont toujours ceci en commun, c'est qu'il faut commencer par trois bonnes semaines où le seul travail, c'est le travail sur l'orgueil. Et je dirais, une fois qu'on a réussi ça, le reste vient de lui-même. Et la prière, c'est ça, c'est travailler la question de l'humilité, c'est simplifier. Parce que c'est à partir du moment où on est humble qu'on peut devenir fécond.